session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 13 juillet 1990.
Je réponds tout de suite à cette question. Pour quelle raison est-ce le don des corps qui implique la fidélité dans le mariage, alors que la personne se rapporte davantage à l'âme qu'au corps? Surtout, ne distinguez pas, le don des corps implique une fidélité au point de vue aussi de l'intention de vie, de l'amitié. C'est sûr que le point de vue du mariage implique la fidélité dans cette amitié spirituelle s'incarnant dans le don des corps. C'est sur ce point que porte le sacrement de mariage. C'est pas les deux, surtout pas séparés. Si vous séparez le don des corps, qu'est-ce que ça signifie? Rien du tout. Le don des corps exprime l'amour de l'un et de l'autre. Vous voyez? Donc on ne peut pas faire cette distinction-là. Ça ne joue pas. La fidélité porte sur ce choix d'amour de l'époux à l'égard de l'épouse, qui est en premier lieu une amitié spirituelle, et qui s'incarne dans le don des corps, et qui se manifeste, c'est ce que je vous ai ce matin, l'amour se manifeste à travers le point de vue sensible et le point de vue des corps. Et dans le mariage, le don des corps va manifester le caractère tout à fait personnel et individuel de ce choix de l'époux et de l'épouse. Dans le mariage, pris dans le sens le plus profond au plan philosophique, et au plan chrétien, puisque je n'entre pas dans la question du harem, dans quelle mesure est-ce que c'est autre chose, c'est ça. Une autre question intéressante et importante à voir, du reste, si je me place dans la perspective chrétienne. Donc la fidélité implique les deux, elle est liée aux deux. Alors, je réponds à ces questions, bien qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je réponds quand même, faut être fidèle à ce qu'on a dit au début. Hein. Les carrefours sont faits pour poser les questions et on répond à ces questions. Parce que si on ne répond pas aux questions, vous direz, on les a méprisées. Non, on ne les a pas méprisées, on n'a peut-être pas toujours le temps. Peut-on l'âme, pourquoi l'âme séparée du corps continue-t-elle à appeler le corps? Parce qu'elle est unie, parce qu'elle a été unie substantiellement et qu'elle est fidèle. L'âme est fidèle à cette union avec le corps. Le corps lui a donné des joies, a été source de joie, et le corps a été source de souffrance. Et elle est fidèle à ça. Vous savez, il y a une union très très forte entre l'âme et le corps. Hein. Oh là là. Et plus on avance dans l'âge, plus l'union est forte. C'est un enracinement. Moi, je sais pas, ça m'a toujours beaucoup impressionné de voir les agonies des vieillards. Comme c'est impressionnant. Comme si l'âme n'arrivait pas à quitter le corps. Les jeunes, ça part si facilement. Parce que l'enracinement est beaucoup moins fort. Il y a quelque chose de très mystérieux. Alors, évidemment, le philosophe dit une union indivisible. Oh, très bien. C'est très vrai métaphysiquement. Mais le point de vue métaphysique implique le point de vue physique du devenir, il implique le point de vue vital. Et donc, il y a un enracinement. Très fort. Il ne faut surtout pas transporter le point de vue métaphysique à un point de vue de la vie et à un point de vue physique. Il faut être très grave erreur. Le point de vue métaphysique, c'est la fine pointe qui rend raison de tout le reste. Donc tout simplement, répondez que l'âme ayant été créée dans le corps, elle a un lien substantiel avec le corps. Et bien ce lien substantiel, puisque la mort est une peine. On ne s'en remet pas d'une peine. Quand c'est substantiel. Une amende, ça se remet, mais c'est pas une peine. Ouais, c'est une peine quand même pour notre porte-monnaie. Mais c'est pas une vraie peine. Tandis que quand c'est quelque chose qui touche l'aspect substantiel de l'être humain, de la personne humaine, c'est impossible autrement. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui demeure. Un lien. Je ne peux pas savoir lequel, hein. J'en ai pas l'expérience. Vous non plus. Alors j'aime mieux pas dire des choses purement imaginaires. Je n'ai aucune expérience de ça. Vous voyez, si l'écriture était un livre philosophique, on aurait demandé à Lazare l'expérience qu'il avait faite. 3 jours dans le sépulcre. Qu'est-ce que son âme a vécu? On l'a pas demandé. Parce qu'il n'y a aucune curiosité dans l'écriture. Fait pour nous, pour notre salut. Tandis que le philosophe s'intéressera à ça. J'avoue que je m'intéresserai beaucoup. Vous voyez ça, aujourd'hui, interview avec Lazare. Et par image, les primeurs. Platon a-t-il vraiment découvert l'âme? À la manière de Platon. Faut pas trop juger Platon dans la lumière d'Aristote, puisque Platon conduit Aristote. Grâce à Platon, Aristote a existé. Si Platon n'avait pas existé, est-ce que Aristote aurait existé comme ça? Je sais pas. C'est merveilleux, ça fait d'avoir un maître comme Platon pendant 20 ans. C'est quelque chose. Parce que c'est quand même génial, Platon. Alors il a une intuition, je dirais. Il a une intuition de l'âme. L'âme est contemplative, l'âme spirituelle, est contemplative par nature. Mais c'est quand même quelque chose d'avoir compris l'âme contemplative. Alors il a beaucoup moins bien compris l'âme informant le corps et déterminant le corps. Ça, il a beaucoup moins bien compris. Mais il a compris quelque chose dans cette soif de contemplation, cette soif de bonheur. La voie d'intériorité suffit-elle à découvrir l'âme? Pour Platon, c'est une voie d'intériorité, c'est sûr, mais c'est une voie d'intériorité à la Platon, pas du tout à la manière du Searle. Platon n'a jamais mis entre parenthèses l'exister. Ça, il est bien évident. Pour lui, l'âme a existé. Et ce qu'il considère, c'est une âme qui a l'existence. Donc ce n'est pas du tout l'intentionnalité. Ne projetons pas sur Platon certaines choses qui sont venues après. Il y a un réaliste dans Platon, on ne peut pas nier. C'est un super réaliste. Un peu trop. Le lien entre le corps et l'âme spirituelle étant substantiel, est-il possible qu'il y ait un amour purement passionnel entre deux personnes humaines? Entre deux personnes humaines qui sont jusqu'au bout humaines, non. Mais entre deux personnes qui sont complètement passionnées, oui. La passion peut. Vous avez déjà vu des personnes passionnées, quoi. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience, vous la ferez. Des personnes purement passionnées dans l'ordre de l'irascible, dans l'ordre du concupiscible. On sent très bien que le point de vue spirituel est complètement dévasé. C'est la passion qui passe devant. La passion peut inhiber le plan spirituel, mais complètement. Et c'est ce qui fait dire aux stoïciens que la passion est mauvaise à cause de ça. Nous ne disons pas que la passion est mauvaise. Une passion qui est spiritualisée n'est pas mauvaise. Une passion qui est éduquée n'est pas mauvaise. Une passion qui est purement développée. Vous voyez, un cheval au galop, lisez la description, parce que ça c'est une description classique, de Sénèque dans le Déiran. Si on avait le temps, je vous lirais, lecture au réfectoire, on rigolerait tout le temps, pas, mais ce serait quelque chose d'extraordinaire. Mais le Déiran de Platon, de Sénèque, quand il donne ça, c'est une description extraordinaire de la passion. On a tous fait ça. Des souvenirs de ma jeunesse où j'ai fait mis en colère certains pions, mais c'est extraordinaire. On a l'impression qu'à ce moment-là, ils perdaient la tête complètement. Avec toute la dignité qu'ils avaient. Et perdaient la tête. C'était ça qui était amusant, du reste. Si j'avais pas perdu la tête, ça aurait pas été amusant du tout. Et quand ils perdaient complètement la tête, c'était très amusant. Parce qu'ils perdaient leur dignité. C'était pas bien de le faire, mais même, on a tous fait dans la jeunesse des choses qui étaient... C'était encore trop passionné, vous voyez. Quand on est passionné, on va éveiller la passion. Et on l'éveille bien. On l'avait appelé du reste. On l'avait appelé colérique. Et 20 ans après, étant déjà dans l'ordre, je l'ai rencontré encore. Je l'ai retrouvé. Alors je me suis beaucoup amusé. Je me suis demandé ce qu'il était devenu. On avait mis aumônier de l'action féminine. Authentique. Hein. La plus classique qui soit. Et international, ce qui était mieux. Alors, donc, vous voyez, c'est possible que vous n'ayez jamais rencontré quelqu'un d'entièrement passionné. C'est possible. Moi, j'en ai rencontré. Et c'est pas drôle. Parce que on est capable de tout. Dans la colère. Vous voyez, on rencontre ça quelquefois. Quand on circule comme ça en habit, on rencontre de temps en temps des gens qui sont vraiment très passionnés et qui seraient capables de vous tuer. Alors, on n'a pas le droit de s'exposer inutilement. Mais il n'y a pas très longtemps. J'ai changé de trottoir, ce que je fais rarement d'habitude. Je vais plutôt leur parler. Et là, j'ai vu que c'était qu'il était. Avec un couteau à la main, vous savez, c'est pas la peine de recevoir un coup inutilement. On aime mieux changer. Mais il y a des gens qui sont en colère. Et quand ils sont en colère, ils sont capables. Vous voyez, tous les meurtres qu'on voit, enfin, hélas, aujourd'hui, c'est la passion. C'est un homme qui tue froidement quelqu'un d'autre, c'est la passion. Un homme qui se suicide, c'est la passion de désespoir. On ne se suiciderait pas si on avait un tout petit peu d'amour spirituel. La passion peut aller très loin. Et c'est pour ça que je vous dis que les stoïciens, qui n'étaient pas des imbéciles, les stoïciens étaient quand même des philosophes. Le stoïcisme, c'était la philosophie à Rome en l'an 50. Et les stoïciens condamnaient la passion. Toute passion. Toute passion mauvaise. Parce que justement, ils voyaient les dégâts. Alors, autre question. Comment le peintre conserve-t-il un modèle seulement comme un corps? Ou prend-il en compte la personne la personne du modèle? Tout dépend de la qualité du peintre. Si vous avez un très grand peintre, eh bien pour lui c'est une personne. Ça, je le tiens, j'ai entendu. J'ai dialogué avec des peintres là-dessus. Si vous avez au contraire un peintre qui est moins intérieur. L'intériorité d'un Rembrandt. Ou que vous, quand vous connaissez, regardez un Buffet. Picasso est de l'intériorité. Mais un peintre qu'on a lancé. J'ai connu le moment où on a lancé Buffet. On l'a lancé. On peut faire tout, vous savez. Grâce, c'est dit. Il l'a dit, le libraire. Il a dit qu'il pouvait lancer le roman qu'il voulait et que tout le monde applaudirait. Alors il garde un peu sa réputation, donc il ne va pas lancer une croûte. Ça c'est évident. Il va lancer quelque chose qui n'est pas trop mauvais. Mais il a dit. Et ça parce que, au fond, il faut bien voir que les personnes ont tellement peine à avoir un tout petit peu le sens de ce qui est grand et de ce qui est médiocre. On juge en fonction des autres. Oui, on voit les réclames du cinéma, on voit les réclames pour le théâtre, pour les livres, et on suit. C'est très très curieux ça. Faites attention à ça, parce que ça c'est bon de voir ça. Alors, pour le peintre, vous voyez, moi je crois que un vrai peintre, quand il peint un corps, ne peint pas le corps d'un animal. Il sait que c'est le corps d'un homme. Est-ce analogue au rapport de médecin au malade? Alors, je dirais, pour le médecin, c'est encore plus proche. Parce que le peintre, lui, regarde l'harmonie, la beauté. Et la beauté n'est pas toujours liée au corps de l'homme. Oui. Tandis que le médecin regarde toujours le corps de l'homme. Donc un médecin doit regarder la personne humaine. Même s'il n'est que spécialiste. Je sais très bien que quelquefois ils n'ont pas le temps. Mais tandis qu'un savant, lui, il regarde l'aspect formel de la science. Donc, est-ce analogue au rapport du médecin au malade, à celui du chercheur en biologie au corps? Le chercheur en biologie, uniquement le savant biologue, mais il regarde le corps et les réactions biologiques. C'est ça qu'on lui demande dans sa science. Vous voyez, ce serait excellent au point de vue logique à regarder ça. Hein, c'est intéressant comme petite analogie. Il faut s'apposer. Alors mettez le peintre ou le dessinateur, soit, par rapport à l'artiste, par rapport au corps humain. Donc le médecin, par rapport à la santé, parce que c'est la santé qui regarde, tandis que le peintre, c'est la beauté, l'harmonie, les proportions, et puis le savant, qui lui regarde l'aspect vivant, l'aspect biologie. Et c'est le médecin, par rapport à la santé, qui ne peut pas abstraire la maladie de l'homme. Puisque tout le monde sait que le moral est essentiel au malade. Et c'est pour ça que les médecins hésitent de dire à un malade qu'il a le cancer. C'est pas pour le plaisir de cacher. J'ai vu un cas très, très, très... touché d'assez près, j'ai demandé à un médecin auquel j'avais toute confiance. Je lui ai dit, est-ce que, et qui était très bon chrétien, je lui ai dit, est-ce que je dois lui dire? Il a réfléchi. Il a dit, mon père, je crois que je ne dirai pas. Parce que vous ne pouvez pas comprendre et saisir d'avance la réaction de quelqu'un qui est déjà atteint par un mal. De lui dire ça. Immédiatement condamné à mort. Alors, ça risque de casser un élan vers le point de vue de la santé. Et je lui dis, vous dites bien ça en tant que chrétien. Il m'a dit, oui, je dis ça en tant que chrétien. C'est pour ça que c'était très délicat. La petite Marthe Robin disait, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est une correction fraternelle de dire à quelqu'un qu'il a tel mal. Vous voyez bien, vous dévoilez un mal. Évidemment, il n'en est pas coupable, la différence de correction fraternelle. Mais dans les corrections fraternelles, c'est de la culpabilité, vous ne savez rien du tout. Quelqu'un arrive toujours en retard. Mais si vous voulez, s'il a une montre intérieure qui retarde tous les jours de 5 minutes, mais il arrivera toujours en retard. C'est sa psychisme, ça. En communauté, on parlait, chez les Dominicains, pas ici, on disait de quelqu'un, on a l'impression qu'il tire toujours un chaland. Vous savez, ces gens qui tirent un chaland, ils mangent lentement. Alors, ils arrivent toujours en retard. Moralement, est-ce qu'il est coupable? J'en sais rien. Dieu seul sait. À la correction fraternelle, on insiste. On doit faire la correction fraternelle quand on sait que c'est efficace. Ah. Donc avertir quelqu'un qu'il a tel mal, si ce ne sera pas efficace pour sa guérison, alors vous allez dire pour son âme, c'est très vrai. Mais quelqu'un que vous savez qui est vraiment très abandonné à Dieu, pourquoi le dire? Vous dites qu'il faut s'abandonner davantage à Dieu, c'est tout. Pas la peine de... Vous voyez, c'est toute la question, donc. Le médecin lié à l'homme. La santé liée à l'homme, à la personne. Le peintre, ce que je vous ai dit. Évidemment, la beauté, purement sensible, peut être uniquement prise de ce point de vue-là. Mais si on sait qu'il y a un rayonnement de l'âme spirituelle dans le corps et dans la sensibilité du corps. Un vrai peintre aura nécessairement une communion avec quelque chose qui est plus que l'aspect purement sensible. Et quand il s'agit du savant, l'abstraction est plus facile. C'est le savant qui peut le plus formaliser et séparer. Parce que c'est un domaine très particulier, par définition. La science est toujours particulière, les sciences modernes. Oui, elles se spécialisent. Et que le médecin n'a pas le droit de se spécialiser totalement. Jamais. Et le peintre non plus. Parce qu'il y a quelque chose de spécial. Quel est le rôle du corps dans l'amitié, dans le commencement d'une amitié? Sympathie et antipathie naissent-elles en fonction de l'apparence corporelle? Ça dépend des cas. Il y a des sympathies qui peuvent venir de là, tiens. Ça peut venir de là. Ou prennent-elles déjà en compte le rayonnement de l'âme? Souvent. Souvent. Comme disait un vieux permette, pas celui d'ici, comme disait un vieux permette dominicain, qui était assez extraordinaire. Pendant mon noviciat, il était très connu. Je le connaissais bien à cause de mon vieil oncle, père de Haut, qui m'en avait parlé. Il avait été son père maître. Je vous affirme, hein, si on mettait ce régime-là aujourd'hui, je ne sais pas qui resterait au noviciat. Il avait une conférence sur voilà comment j'étais père maître. Il avait une très grosse expérience. C'est lui qui me disait, quand je reçois quelqu'un qui vient pour se demander d'être entré dans l'ordre, je dis, mon cher ami, restez prendre votre repas à midi. Puis alors, il le met juste à la table du milieu, puis le regardait du coin. Puis il me dit, à la fin du repas, je sais s'il doit rester ou pas rester. Ça dépend les gens qui peuvent manger comme des... Je ne dis pas le nom, vous voyez, puis d'autres qui mangent autrement, quoi. Mais on voit très bien ça, c'est très significatif. On ne fait plus ça. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Et alors il disait toujours, les amitiés, c'est le regard. C'est le regard. Donc il regardait. Il voyait. Donc, le rayonnement de l'âme se fait par le regard. C'est là où le rayonnement se fait le plus. Le regard jette du feu. C'est vrai, ça. Bon. Pas uniquement, mais ça joue un rôle important. Donc, sympathie et antipathie, c'est toujours très difficile à raisonner ça, parce que c'est justement un irrationnel affectif. Un irrationnel affectif qui touche la personne, qui touche la sensibilité. Alors ça touche le corps, c'est évident, mais ça touche l'âme aussi. Mais quelquefois, vous apercevez que ça n'a touché que le corps. Vous avez une sympathie, puis vous creusez un peu, puis vous dites, oh non, fausse. Le ramage ne suit pas du tout le plumage. Ou l'inverse, si vous voulez, le plumage n'est pas du tout à la hauteur du ramage. Dans l'Apocalypse, on montre, c'est des harmonies. Parce qu'il s'agit du dragon, il s'agit de la bête de la terre et de la bête de la mer. Il n'y a plus d'harmonie. C'est très curieux, ces choses-là. Donc, vous voyez, il est sûr que dans l'amour d'amitié, alors, il faudrait là encore faire de grandes différences. Un amour d'amitié qui naît parce qu'on travaille ensemble, avec le climat. Un amour d'amitié qui naît dans un climat purement mondain. Un amour d'amitié qui naît au noviciat, dans un climat religieux. Dans un climat religieux, qu'est-ce qui est premier ? La charité fraternelle. On entre pour le Christ, pas pour retrouver un ami. Ça, c'est toujours catastrophique, parce qu'on ne le retrouve pas. On n'entre pas pour retrouver son jumeau. Hein ? C'est pas beau, ça. On entre. Puisque la vocation, les vocations sont doubles. Hein, il y a deux âmes. Et ça se voit avant des vocations. On entre par amour pour le Christ. Il y a un jumeau avant. Très bien, on en est très heureux. Ça fait peut-être un petit tremplin. Mais quelquefois, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On dit, c'est idiot. On aime bien un petit peu d'originalité, même dans la vocation. Rentrer là, sur les pas de quelqu'un d'autre, ça va pas. Alors, une amitié qui naît à l'intérieur de la charité fraternelle est ordinairement une amitié qui tout de suite touche la personne. Une amitié qui naît dans un climat artistique. Ordinairement, c'est beaucoup plus sensible. Vous voyez ? C'est très curieux. Parce qu'il y a mille moyens d'entrer en amitié avec quelqu'un. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est toute la complexité de la personne humaine. Et l'amitié, c'est la rencontre de deux personnes humaines. Et la rencontre de deux personnes humaines peut se faire de multiples manières. Donc, vous voyez, je dirais que ça peut être la sympathie, ça peut être l'antipathie. C'est très vrai. J'ai une antipathie naturelle vis-à-vis. Vous voyez, j'entre au noviciat. Hein. Au noviciat, il y a des gens très bien. Et puis, oh là là, il y a ce frère, si j'avais vu ça. Une antipathie spontanée, irraisonnée. Alors c'est pas bien. La charité fraternelle me met d'aimer tout le monde. Le Seigneur dit même les ennemis, donc même les antipathiques. Donc je vais faire un effort énorme, énorme. Cet effort est tellement grand qu'il est victorieux de l'antipathie. Et grâce à l'antipathie, l'autre sera beaucoup plus proche que n'importe qui d'autre. Ça arrive, ça. Chez les saints. Les choses qui arrivent. Chez les non-saints, c'est rare. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de réponse immédiate. Il y a la complexité de la personne humaine. Voilà. Alors, il y a des philosophes qui ont mis les atomes crochus, ça n'explique rien. Bon. Parce que la sympathie, c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Et ce magnétisme qui s'exerce entre personnes, que des personnes voient, si des personnes sentent ça très fort, c'est comme le magnétisme des telluriens. On le ressent pas. Ça dépend des sensibilités. Et les sensibilités sont diverses, c'est pas parce que vous n'en savez pas le magnétisme tellurien que vous n'êtes pas insensible. Vous n'êtes pas sensible pour cela. Mais vous pouvez être sensible pour la peinture, c'est tout à fait autre chose. Ou pour la musique, ou pour la philosophie. Vous voyez ? Il y a des sensibilités très différentes. Ce sont toutes les alliances de l'intelligence avec le point de vue des sens. Le beau, est-ce le corps physique ou le rayonnement de l'âme? Vous savez que la définition du beau, si on veut une définition, habitus entitatif de l'âme. Pour les néoplatoniciens, pour Aristote, le beau est sensible premièrement, mais il y a un beau aussi dans la noblesse de notre âme. Et ça, ça se sent. On sent des gens qui ont une noblesse d'âme et une beauté dans les gestes qu'ils font, dans l'attitude qu'ils ont, dans la manière dont ils abordent les gens. Et puis il y a le beau sensible, c'est évident que le beau sensible, on ne peut pas le nier ça. J'ai toujours raconté cet exemple en Grèce avec un sculpteur qui était un ami. Maintenant il est parti pour le ciel, donc tout d'un coup je reçois coup de coude en pleine poitrine. Regardez cette déesse. Évidemment, lui était attiré par ça. Des yeux grecs. Alors, évidemment, en tant que sculpteur, il n'était pas très discret. Il l'a regardé comme ça. Et moi, j'étais en Dominique à côté. Je ne pouvais pas faire tout à fait la même chose. Mais il regardait pour moi. Regardez la déesse. Oui, ah, ça, c'est la beauté sensible. Et il était complètement arrêté. Vous ne pouvez plus arrêter, continuer sa route. Saisi. Dans l'écriture, quand on voit Jacob en face de Rachel, ça a dû être la beauté de Rachel, les yeux de Rachel, c'est du Jacob. Marquez qui, psychologiquement, dirait qu'il était dans un état particulièrement capable de recevoir une séduction. Parce qu'il était, il était un petit peu tremblant. Donc il cherchait quelqu'un qui s'accrochait. Il se raccroche à Rachel. Il l'attire. Qu'il séduit. Pas plus, hein, je ne vais pas plus loin. Mais vous voyez, ce sont des sujets qui montrent la complexité de la personne et l'unité de l'âme et du corps. Sorte qu'au fond, il n'y a que les positivistes acharnés qui nient l'existence de l'âme. Dès qu'on aime quelqu'un, on ne peut plus nier l'âme. C'est impossible. Il y a des liens. C'est pour ça que chaque fois que je suis en face d'un marxiste ou d'un positiviste, je lui demande s'il est marié. S'il est vieux garçon, il n'y a rien à faire. S'il est marié, s'il a des enfants, et s'il me dit qu'il aime sa femme et ses enfants, je dis, ah, alors, hein, votre positivisme, ça explique ça? Alors il me donnerait une explication purement mécanique. Je dis que ça, c'est de la blague. Ce que j'ai fait une fois avec un psychologue, j'ai dit, la psychologie ne peut pas expliquer ce que c'est que l'amour. Et là, il assistait à cette conférence, il était furieux. On m'a dit qu'il était furieux. Puis en même temps, on m'a dit qu'il était fiancé. Alors, on m'a dit qu'il vienne avec sa fiancée. Et puis je lui ai posé la question, votre psychologie vous a servi beaucoup à aimer votre épouse ou à choisir votre épouse? Alors il m'a regardé, comme si je l'attaquais. Plus mordant de même. En rien. Je dis, heureusement pour votre fiancé. Oui, il y a quelque chose de plus radical. Et alors le philosophe s'intéresse à ces expériences-là. C'est ça qui me fait déceler ce qu'est l'amour. Tandis que si vous mettez tout un système, mais non, il n'y a rien de plus spontané en nous que l'amour. Rien de plus spontané. C'est pour ça que c'est personne à personne. Et là, vous découvrez la complexité. Il y et en même temps ce qu'il y a de plus profond, qui se dévoile dans l'ordre de l'amour. Il y a encore beaucoup de choses à dire, vous voyez, sur la personne et le corps. Mais je crois, ce matin, au moins schématiquement, de vous avoir donné quelques conclusions. Je voudrais maintenant, puisque c'est le dernier cours, qu'il n'y a plus beaucoup de temps, vous parler du dernier regard. Oui, il y a encore un cours ce soir, mais en théologie. Vous donnez le dernier regard du philosophe. Un regard qui, hélas, n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Le philosophe est capable d'atteindre, de dévoiler l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, le Créateur. Bon, je ne vous montre pas comment, mais je vous affirme que c'est le problème le plus foncier de toute la philosophie, selon la grande tradition occidentale et orientale encore plus. C'est très récent, le problème de l'idéologie athée, 150 ans. Donc c'est très récent, alors que la philosophie existe dans notre culture, ben quand même, depuis quand même un certain nombre d'années. Presque 3000 ans. D'Hésiode à Heidegger. Comptez, ça fait quand même quelque chose. Et ça, je dois être sensible quand même à ça. J'ai pas le droit de pas être sensible à ça. La tradition, parce qu'il y a une certaine tradition actuelle, des idéologies athées, c'est récent. C'est très récent. Il y a toujours eu des athées individuels. Les sophistes, parmi eux, il y avait des athées. Mais ils ne s'érigeaient pas, vous voyez, comme philosophes athées. Ils disaient qu'ils étaient athées, agnostiques. Ils ne comprenaient pas. Donc le problème de la découverte de l'existence de Dieu reste un problème fondamental pour le philosophe. Parce que vous comprenez, pour ma destinée humaine, c'est quand même très important. Savoir si, de fait, je meurs comme un chien, il n'y a rien après moi, après ma mort. Après moi, le déluge. Il n'y a rien. Ou si, au contraire, il y a quelqu'un. C'est très, très important. Et ça change toute l'éthique. Ça lui donne une couleur toute nouvelle, éthique religieuse. Le philosophe ayant découvert l'existence de Dieu, ayant découvert que le lien entre Dieu et moi-même, comme personne humaine, parce que je crois que c'est à partir de la personne humaine qu'on peut le mieux découvrir l'existence de Dieu. C'est là où je crois qu'il faut renouveler les preuves classiques, par le point de vue de la personne. Ayant vu le lien entre l'être premier et moi-même, ayant compris que ce lien, c'est le lien de la création, je peux essayer de comprendre dans la perspective de la création, c'est-à-dire dans la perspective de Dieu, qu'est-ce que je suis comme personne humaine. Très peu de philosophes font ça. C'est dommage, parce que c'est là où on comprend pourquoi on fait de la philosophie. En dernier lieu, découvrir l'existence de Dieu et découvrir en profondeur ce qu'est l'homme comme créature, la personne humaine comme créature. C'est dans cette vision-là que je me pose la question, dans la sagesse de Dieu, pourquoi le corps uni à l'esprit ? Vous voyez, la question de la finalité. En vue de quoi Dieu a réalisé ce chef-d'œuvre ? C'est quand même important, cette question. C'est très délicat. Hein ? Pourquoi Dieu esprit, acte pur, sans aucune potentialité, absolument simple. Crée-t-il, réalise-t-il un monde physique ? Il a créé la matière. Pure potentialité. Un être acte pur qui crée la potentialité. Pourquoi n'a-t-il pas créé uniquement des esprits ? Certaines traditions religieuses parlent de la création d'anges. Le philosophe ne peut pas en parler, hein, parce que je n'ai pas l'expérience naturelle des anges. Le croyant en parle. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé uniquement des anges, selon certaines traditions religieuses ? Pourquoi Dieu a-t-il voulu aller jusqu'au bout ? Créer des êtres si complexes. L'esprit lié à la matière. Une âme spirituelle liée à la matière. Pourquoi ? Mais c'est une très belle question pour comprendre en définitive ce qu'est le corps. Au plan philosophique, hein, je ne fais pas appel encore à la foi. Ce soir. Première raison. Dieu veut communiquer la vie le plus qu'il peut. Créant des vivants, il veut créer des sources de vie. La fécondité. Et pas seulement l'efficacité. Distinguez bien au plan philosophique. Efficacité et fécondité. La fécondité relève de l'amour. Et l'efficacité relève du travail. Un travail demande d'être efficace. Et l'amour demande la fécondité. Tout amour demande la fécondité. Et tout travail demande l'efficacité. Dieu a voulu l'union de l'esprit et du corps pour pouvoir communiquer à des êtres créés, des êtres vivants, spirituels et corporels, la capacité d'être source de vie, dans le mystère de la fécondité. Un ange, s'il existe, dit le philosophe, un être purement spirituel créé, ne peut pas créer, ne peut pas être fécond et engendrer. C'est plus juste de dire ne peut pas engendrer, ne peut pas être source de vie. Vous allez me dire pourquoi ? C'est parce que dans un jugement de sagesse, au niveau de l'être, je suis un être participé, donc radicalement dépendant. Je ne peux pas ajouter quelque chose à mon être. Je constate que j'existe, et je constate que j'existe limité. J'ai à côté de moi un voisin qui n'est pas moi. Il est très gênant, parce qu'il me rappelle tout le temps que je ne suis pas l'être. Je ne peux pas dire, regardez-moi bien, vous verrez l'être. Non, vous verrez une personne humaine. Il n'y a que la communication de la vie qui peut permettre d'être source de vie. C'est par la vie, pas par l'être. Or, dans toute créature, il y a une distinction entre être et vie. La lune existe. On n'a pas encore découvert la vie dedans. On ne sait pas. Le soleil existe. Il n'y a pas la vie. Il y a une drôle de vie. Hein. Vous direz, oui, l'enfer. Il chauffe. Non, non, il n'y a pas la vie. Un être qui n'est qu'esprit, un alors qu'il y ait une vie poussée à l'extrême, ne peut pas être source d'être. Parce que sa vie, elle aussi est participée. Et elle se réalise de manière intentionnelle. Il ne peut pas communiquer un être substantiel, personnel, à un autre. Alors, vous voyez, il faut cette combinaison extraordinaire. Il faut une coopération entre l'homme, créature et Dieu pour la réalisation de la procréation. Par le point de vue du corps. Mais la procréation est un acte humain et donc il y a l'amour d'amitié qui permet le don des corps et qui réalise le don des corps. Et la procréation va être comme le fruit de cet amour d'amitié. Mais la procréation va impliquer la création de l'âme. C'est pas Dieu qui donne le planning familial. Il l'a oublié. Dieu laisse aux parents l'initiative et la responsabilité. Je n'aurais jamais voulu donner ça. Parce qu'il laisse une liberté bien plus grande que les hommes. J'aime mieux tomber dans les mains de Dieu que dans les mains des hommes, dit le psalmiste. Je comprends. Parce que je sais que Dieu est bien plus magnanime que n'importe quel homme. Il laisse à l'homme une liberté bien plus grande. C'est les tyrans qui mettent une attitude exacerbée au plan liberté. Quelqu'un qui était en prison pendant des années, quand il commence à sortir, la liberté, il en devient fou. Il ne sait pas très bien comment on le sait. Dieu ne met jamais en prison. Même un pécheur, il le laisse libre de retomber. C'est invraisemblable. Nous, on ne fait pas ça. Pour un alcoolique, on ne le laisse pas libre de retomber. On lui met une muselière. On l'empêche. On a raison, je suis tout à fait d'accord. On va dire qu'à cause de ça, qui laissait la liberté, il y a Dieu qui peut faire ça. Mais c'est grand de voir cette liberté de Dieu extraordinaire, tellement il nous aime. Alors, tout le mystère de la procréation est lié au corps. Et à l'âme. Ne réduisons pas la procréation à l'efficacité, ce qui est la grande tentation aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'Église met tellement en lumière ce problème aujourd'hui. L'efficacité, l'homme domine l'efficacité. L'homme ne domine pas la fécondité. Parce que l'homme ne domine pas l'amour. Tout amour est un don de Dieu. Toujours. Et l'homme ne domine pas la fécondité. Et il doit remercier Dieu de sa fécondité. C'est très grand ça, hein. C'est très beau du reste. Et de comprendre que la procréation est liée substantiellement à l'âme spirituelle des parents. Puisque c'est un acte sacré. Puisqu'il est lié à une alliance avec Dieu. Donc, il y a quelque chose de radicalement spirituel. L'amour d'amitié des conjoints. Et cet amour d'amitié s'incarne, se manifeste, se réalise dans le don des corps. Et il y a un lien essentiel entre les deux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'efficacité biologique et l'amour d'amitié des parents et le don des corps. C'est là le point extrêmement important, très crête et qui coche, c'est bien. C'est le fat chéré et la durée. Est-ce que la procation est du fat chéré? Fat chéré, vous voyez, hein, c'est dit ça en latin, c'est du fer, c'est la fabrication, quoi. C'est la technique, le fat chéré. C'est l'efficacité. Le travail demandé est efficace. Et la durée qui relève de l'amour. C'est très très important de comprendre ça. Alors, jusqu'où le fat chéré peut intervenir dans la durée? C'est la question. Jusqu'où? Ou le fat chéré intervenant dans la durée ne va-t-il pas briser une union substantielle réalisée par Dieu? C'est cette parole de l'Écriture. Le démon cherche toujours à séparer. Je glose, hein, mais c'est ça que ça veut dire. Le démon cherche toujours à séparer ce que Dieu a uni et à unir ce que Dieu a séparé. C'est un petit principe excellent au point de vue de notre propre conduite. Il faut maintenir l'unité dans ce que Dieu a uni, substantiellement. Il faut maintenir séparé ce que Dieu a eu à séparer. Et on a toujours un petit peu une tentation là-dessus. Oui, la tentation de dominer. Le fat chéré nous fait dominer. Et la durée ne fait pas dominer, nous fait aimer. L'agir. Ce qui est au sommet de l'agir, qui est à la source de tout l'agir humain, de toute l'éthique, c'est l'amour. Mais l'amour est premier, il est fondamental. Une éthique n'a de valeur qu'en fonction de l'amour. Un acte reste humain en fonction de l'amour. Donc, il y a là quelque chose de très très important à noter. Que grâce au corps, Dieu fait ce don d'être source de vie pour l'homme et pour la femme. Et que c'est dans leur union, dans leur coopération, que leur amour prendra toute sa fécondité par le don des corps. Deuxièmement, grâce au corps, il peut y avoir un amour naturel d'amitié. L'amour d'amitié, on le disait tout à l'heure, ne peut pas se séparer du corps. Le point de vue de la joie de se retrouver, une joie sensible. Il y aura toujours une sympathie qui se créera au-delà de toutes les antipathies. La victoire de l'amour. Et puis il y aura ce choix mutuel. Dans l'amour d'amitié, on se choisit. On se choisit librement, en s'aimant. Voyez, chez les anges, s'ils existent au plan philosophique, il n'y a pas d'amour d'amitié naturel. Les anges sont des solitaires, des contemplatifs solitaires. Ils ont une noblesse extraordinaire, mais ils sont des solitaires. Ce qui est extraordinaire dans la création de l'homme et de la femme, c'est que Dieu laisse la possibilité d'une véritable amitié. Et une amitié au-delà, vous voyez, je dis bien au-delà, comprenez bien. Je ne veux pas dire plus intense, ça dépend des cas. L'intensité de l'amour d'amitié dépend de la qualité des personnes. Êtes-vous capable d'aimer? Le don des corps est une conséquence. C'est pas là où l'intensité est la plus grande. Au point de vue sensible, oui, mais pas au point de vue profond, au point de vue spirituel. Au point de vue spirituel, l'intensité de l'amour d'amitié provient de la qualité de la personne. Et si on est une personne contemplative, par exemple, a une qualité d'aimer bien plus grande. Ça, c'est sûr. Personne qui a une plus grande intériorité a une qualité plus grande d'aimer. une intensité plus grande, une capacité plus grande d'aimer. C'est pour ça que la fameuse question de savoir où est l'amour le plus parfait répondait tout simplement là où la personne humaine est la plus parfaite. Pour renvoyer à la personne. Et la personne n'a plus le corps. Là où l'amour spirituel est parfaitement victorieux de toutes les passions. Parce que ce n'est pas dans l'ordre passionnel où l'amour d'amitié est le plus parfait. La véhémence de l'amour, oui, oui, dans sa manifestation, c'est la passion. Enfin, les gestes. Oh, comme je t'aime. Puis alors, vous étouffez celui que vous aimez. Tellement vous l'aimez. Parce qu'on manifeste qu'on l'aime en l'étouffant. Quelquefois, il y a des traditions qu'on manifeste qu'on aime quelqu'un en le mangeant. Bon, ça fait partie de ces manifestations. Mais là, la passion. Alors que l'amour spirituel intériorise très fort et très profondément. Mais ne nuit pas à la passion. Toute passion existe. La passion existe toujours dans l'amour d'amitié. Comme l'instinct. Mais il est dominé, il est dépassé. Il y a quelque chose de plus grand qui le porte. Donc, la procréation, être source d'un autre être, être père et mère, être l'ami, c'est le corps qui permet cela. Je ne dis pas que c'est le corps qui le réalise, mais c'est le corps qui le permet. L'aspect politique. Famille. Le fondement de toute politique, c'est la famille. Et ça, naturellement, il faut le défendre à fond. C'est Platon qui dit que c'est l'individu qui est le fondement de la politique. Et ça court aujourd'hui. Hein. C'est pas les célibataires qui sont le fondement de la vie politique. C'est pas la vie monastique. Ça, elle en est très consciente. Tandis qu'il y a des célibataires qui ne sont pas toujours conscients qu'ils ne sont pas fondement de la politique. Ah, ils peuvent arriver au pouvoir. S'ils n'ont plus de temps, s'ils n'ont plus de capacité, ils peuvent arriver. Mais il y a quelque chose qui leur manque. L'expérience de la famille. L'expérience de la famille est fondamentale pour une expérience politique. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le travail. Grâce au corps, on peut travailler. Grâce au corps, il y a l'art. Il y a la médecine. Il y a la cuisine. Grâce au corps. Il y a l'art artisanal. Il y a toute la technique. Grâce au corps. Grâce au corps, il y a les mathématiques. Pas de mathématiques angéliques. La mathématique est typiquement humaine. Et c'est le lien de l'intelligence et de l'imaginaire, du possible. Et de tous les possibles. C'est le domaine propre de l'humain, des mathématiques. Vous voyez, voilà quelques domaines qui montrent. Alors, allons jusqu'à tout ça, montre l'extension. Ce qui m'intéresse, c'est l'intensité. Est-ce que le corps et l'âme est unis au corps pour que je sois plus intelligent? Grave question, celle-là. Eh bien, non. Est-ce que l'âme est unie au corps pour que je puisse aimer plus, avec une plus grande intensité? Oui. Est-ce que c'est curieux? C'est pour le bien et non pas la vérité. C'est pour le bien. Dès que je comprends ce que c'est que l'amour, je comprends tout de suite que l'âme unie au corps me permettra de comprendre que Dieu peut me communiquer une intensité d'amour plus grande grâce au corps. Puisque l'amour, c'est toujours le don. Et grâce au corps, il peut y avoir un don substantiel de moi-même, personnel. Aussi bien à l'égard d'un ami, l'époux à l'égard de l'épouse, que celui qui se consacre à Dieu. Je peux faire un don substantiel à Dieu de toute ma vie, corporelle, sensible, humaine. La consécration virginale, au plan religieux, dans une vision de sagesse, je regarde tous les plans. Je vais ramener deux éthiques. Et cette consécration virginale implique un don plus intense à Dieu que l'ange ne peut pas faire. Les bons anges nous jalousent de notre vie religieuse, de notre vie familiale, de nos amitiés. C'est pour ça que pour le démon, c'est insupportable l'amitié. C'est pas ce que c'est. Ben, des petits bons hommes, de rien du tout, qui s'aiment. C'est idiot. Le démon ne connaît que l'efficacité. La seule chose qu'il connaît, il ne connaît pas la fécondité. Et parce qu'il ne connaît pas la fécondité, il est furieux. Vous voyez, la grande image qui nous est montrée dans l'Apocalypse, c'est le dragon face à la femme qui enfante, qui porte son enfant, tout proche de la naissance. C'est ça qui le met dans la plus grande irritation. C'est la femme qui porte un enfant. Et surtout quand cette femme est en même temps vierge. Alors ça, c'est le comble de la colère. Elle est consacrée à Dieu et il y a une fécondité. Ça, c'est invraisemblable. Ça ne s'explique pas. Angéliquement, ça ne s'explique pas. Alors, il est furieux. Une fureur. C'est quand même très extraordinaire de voir ça. Et c'est l'exemple où on nous montre la colère la plus grande, le dragon. Rouge feu. Donc, dans cette colère. Donc, voyez un peu là, toutes les recherches qu'il faudrait, au point de vue philosophique, en dernier lieu, comprendre comment Dieu a voulu réaliser son chef-d'œuvre pour pouvoir communiquer davantage l'amour. L'homme est plus capable d'aimer que l'ange. Grâce au corps. On a tout